Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par RDIWA et Radio Saint-Ferréol.
Biotope. Un programme soutenu par BioVallée.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue et merci d'être à l'écoute de votre radio locale préférée. Voici à présent le deuxième de notre rendez-vous mensuel avec Biotope, une émission orchestrée par les antennes RDIWA et Radio Saint-Ferréol, en partenariat avec le dispositif BioVallée. Deuxième numéro donc, et aujourd'hui c'est l'équipe RDIWA qui est en charge de vous présenter une heure de pratique, une heure d'information avec pour thème les économies d'énergie. Nous avons souhaité faire intervenir en plateau Monsieur Yann Pérez de l'ADIL, l'association départementale d'information sur le logement. Monsieur Pérez, bonjour.
Bonjour.
Et puis nous sommes également accompagnés de Louis à vos côtés qui n'hésitera pas à participer au débat. Salut Louis.
Si d'aventure cela se révèle nécessaire.
Avant d'entrer plus avant dans le vif du sujet, Monsieur Pérez, pouvez-vous rappeler très brièvement aux auditeurs ce que propose l'ADIL, ainsi que le rôle confié par les élus du dispositif BioVallée à votre organisme ?
Alors l'ADIL est d'abord une association d'information sur le logement, hein, qui comprend une équipe de conseillers financiers et juridiques, donc qui renseigne gratuitement les particuliers sur les questions d'ordre général lié au logement, et rattaché à l'ADIL de la Drôme, effectivement une équipe de conseillers thermiciens qui constitue donc le point information énergie, renseigne les particuliers sur les questions de maîtrise de l'énergie et d'utilisation des énergies renouvelables. Et dans le cadre du partenariat que le point information énergie a avec BioVallée, il y a une action renforcée menée sur le territoire pour renseigner les particuliers sur toutes les questions d'éco-construction, notamment d'utilisation des énergies renouvelables, par le biais d'un numéro vert qui a été mis en place pour avoir une information la plus large possible en amont des projets.
Alors tout de suite, en guise d'introduction, Louis a réalisé un petit micro-trottoir sur ce thème des économies d'énergie. Donc voici ce que les citoyens nous ont renvoyé.
On parle beaucoup d'économies d'énergie actuellement. Qu'est-ce que ça représente pour vous ?
Alors ça représente de changer sa façon de se déplacer par exemple. Il y a des transports en commun qui sont en train de faiblir parce que les gens ne s'en servent pas. Ensuite on nous les enlève parce qu'on dit que les gens ne s'en servent pas. Donc voilà, pour moi c'est un axe fort d'économie. Ensuite il y a tout le quotidien, la manière de prendre des bains ou de ne pas en prendre, la manière de trier ses déchets et puis le rapport à la consommation en général.
Ce serait quoi ? Ce serait dans ma manière de consommer ? Où, bon, c'est vrai qu'on est dans une région qui le permet, mais du coup, tout ce qui est achat de légumes ou de viande ou n'importe quoi, ça reste local, enfin, principalement. J'ai plus de voiture, je suis en colocation. Bon, c'est des partages de frais, c'est aussi des économies d'énergie, je pense. Après, c'est vrai qu'un écran d'ordinateur en veille, souvent j'ai l'œil dessus parce que ça m'embête de voir des trucs qui sont allumés pour rien.
Pour l'économie d'énergie, je dirais que je le ferai uniquement selon mes moyens. Alors, je ne m'endetterai pas pour.
Peut-être réfléchir au niveau de chaque pays, comment nourrir les habitants au niveau local pour éviter des transports de marchandises inutiles.
Moi je pense aussi à lutter contre le gâchis par exemple, parce que le gâchis c'est énorme, que ce soit au niveau des transports, des sources d'énergie, des matières premières qui sont périssables. Après, à titre personnel, c'est vrai que moi je me déplace beaucoup à pied et à vélo. Bah là, on est en hiver, donc j'utilise pas de frigo l'hiver. Y a des petits trucs comme ça, quoi. Mais c'est des... Je pense qu'il faut favoriser les transports en commun et le train en particulier.
Eh bien, d'abord, l'économie d'énergie, c'est une économie financière parce que pour nous, c'est une économie de chauffage. On a changé toutes les huisseries de la maison et fait l'isolation partout où c'était nécessaire ou c'était pas fait.
Pour moi, les économies d'énergie, c'est surtout faire attention à mes déplacements puisque dans le village, il n'y a pas de commerce, qu'il faut se déplacer pour aller à Abdi. Donc on essaie d'y aller le moins souvent possible. C'est aussi ne pas faire tourner par exemple la machine à laver quand elle est à moitié pleine. Voilà, c'est plein de petits détails tout simples de la vie de tous les jours.
Économie d'énergie, c'est faire attention, quoi. faites attention à ce qu'on mange, attention à ce qu'on chauffe, attention à ce qu'on roule.
Le mot économie d'énergie, eh ben, c'est un mot qui m'énerve un peu parce que c'est toujours au même qu'on demande des économies d'énergie et qu'au niveau gouvernemental, au contraire, on casse les petits. Ils ont arrêté les subventions sur le chauffage solaire, sur plein de trucs comme ça et qui font que bah, finalement, pour se mettre à l'écologie, eh ben, il faut avoir du pognon, quoi. Et économie d'énergie, ben voilà, ça m'énerve ce mot, voilà.
Pour moi, ça représente le fait d'être conscient et responsable de ses actes.
Plus d'eau chaude ou moins d'eau froide? Et du coup, ben, moins d'eau froide.
D'abord, c'est une réalité économique et financière. On a tous besoin d'économiser un trajet en voiture, un peu d'électricité, c'est des sous. Et puis après, ben, je pense que pour pas mal de gens aussi, c'est de faire attention aux ressources limitées de notre petite planète. Et puis aussi, ben, tout simplement, quand on utilise de l'énergie, en général, on pollue. Donc, c'est des petits gestes au quotidien, c'est pas toujours simple. Il y a plein de fois où on aimerait, et puis en fait, on se rend compte qu'on gaspille et qu'on est à l'ouest sur ça. Voilà.
Voilà pour ce petit micro-trottoir. Alors, est-ce que vous avez des réactions? D'abord, on a entendu plusieurs choses. Le transport, des petites actions comme ça qui permettraient d'économiser de l'énergie. Et puis, cette notion de non-gaspillage et de responsabilité.
Oui, effectivement, moi, ce que je trouve intéressant dans ce micro-trottoir, c'est qu'à l'unanimité, on parle en priorité des comportements. Et ça, c'est bien sûr la première des dispositions à mettre en place. L'économie d'énergie, énergie renouvelable. Ça n'est pas forcément synonyme de gros investissements et on peut faire des économies d'énergie déjà en changeant ses comportements, c'est la première des choses à faire. Concernant après les travaux éventuellement à mettre en œuvre dans son logement, effectivement il y a des priorités à se donner et c'est bien sûr l'isolation qu'il faut d'abord privilégier, hein, puisque avant de penser mettre un capteur solaire, il faut réfléchir à la performance thermique de son logement, puisque c'est quand même le poste chauffage aujourd'hui qui est, sur l'habitat ancien du moins, le poste le plus important de dépenses énergétiques. Donc c'est bien sûr par l'isolation, après les comportements, c'est l'isolation du bâti qui est prioritaire. Et donc les conseillers thermiciens du point information énergie sont là pour informer sur les cibles à mettre en œuvre, les cibles les plus pertinentes à mettre en œuvre, et bien sûr les dispositifs financiers qui permettent de soutenir la mise en œuvre de ces travaux.
Voilà, on a eu là quand même deux personnes, en tout cas, qui disaient à quel point c'était peut-être compliqué financièrement ou cher, ou du moins qu'il ne fallait pas que ça sorte de leurs moyens. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça?
C'est assez vrai. C'est vrai que si on envisage une rénovation globale d'un logement, ça représente des investissements assez élevés, mais... Il existe des dispositifs d'aide, notamment comme les subventions de l'ANA, par exemple, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Donc, ce sont des subventions conditionnées aux ressources. Vous avez des systèmes de dispositions fiscales comme le crédit d'impôt ou l'éco-prêt à taux zéro qui peuvent aussi venir en aide aux particuliers. Cela dit, ça reste des mécanismes financiers difficiles à actionner. Il y a à la fois du conseil technique à donner aux particuliers sur les cibles prioritaires à mettre en œuvre, mais aussi les informer au mieux sur l'articulation de tous ces dispositifs financiers. Et c'est le rôle du point information énergie.
Et puis on a eu une petite intervention qui mettait en cause un petit peu le politique, l'État. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la DIL peut, elle aussi, faire comme ça pression aussi sur un certain nombre d'élus, proposer des nouvelles, faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience collective et politique aussi sur ce sujet?
Alors, contrairement à ce que l'on pourrait dire, il y a eu quand même le Grenelle de l'environnement au niveau national qui a fixé quand même le cap en matière de réduction de gaz à effet de serre au niveau national. Et ça se traduit de plus en plus au niveau territorial par la mise en place de plans climat énergie territoire, par exemple, et par la prise en charge de la question de la maîtrise de l'énergie par les territoires eux-mêmes. C'est un petit peu nouveau par rapport aux anciennes directives en matière de maîtrise de l'énergie qui venaient d'en haut globalement. Donc aujourd'hui, la question de la maîtrise de l'énergie ne peut se décider, enfin la politique énergétique ne peut se décider qu'au plan local, d'où l'initiative de BioValley qui a des objectifs ambitieux de réduction de gaz à effet de serre d'ici l'année 2020.
Alors justement, puisqu'on abordait un peu ce côté politique et puis des notions justement de gaz à effet de serre, de réduction de notre empreinte écologique, nous avons rencontré Olivier Sidler qui travaille pour la société Enertech, donc un bureau d'études spécialisé justement dans l'économie d'énergie. Il nous fait une part de constat assez, assez alarmant, enfin du moins difficile à entendre sans doute, et puis demande justement quand est-ce que le politique s'emparera de cette question.
C'est quelque chose qu'on a voulu nier pendant très longtemps. On a plusieurs problèmes majeurs, plusieurs grands défis que pose l'énergie à l'humanité. Le premier, c'est tout simplement qu'on va vers une pénurie des hydrocarbures. D'ici une cinquantaine d'années, normalement, la plupart des gisements, au rythme de consommation actuel, seront épuisés. Mais il y a plus gênant, c'est que l'exploitation d'un gisement d'hydrocarbures passe par un maximum, puis redécroît quoi qu'on fasse derrière. Et ce maximum sur le pétrole mondial, on l'a atteint. C'est ce qu'on appelle le pic de Hubert, c'est-à-dire que dans les années qui viennent, on n'arrivera pas à fournir suffisamment de pétrole pour toute la demande mondiale si elle continue à augmenter comme elle augmente. Ça veut dire qu'il y aura rupture entre l'offre et la demande et donc que le prix de l'énergie va augmenter fortement dans les années qui viennent. Ça, c'est une certitude. On doit donc se préparer à cette pénurie énergétique et on doit se préparer à cette augmentation du prix, donc en limitant nos besoins. C'est le premier point. L'économie aujourd'hui, avec ses modes de calcul, détermine le prix du pétrole sur son seul coût d'exploitation et de transport, alors qu'en fait c'est une denrée extrêmement rare qui s'est créée par un accident géologique qui a 400 millions d'années et qui ne se reproduira plus. C'est-à-dire que la rareté du produit pétrole ou hydrocarbure d'une façon générale n'est pas du tout prise en compte dans son prix. Et ce prix est très faible. Il faut quand même savoir que même à 80 dollars le baril, le pétrole est moins cher que l'eau minérale. Mmh. Donc il y a quelque chose qui coince. C'est certain que ce prix devrait être beaucoup plus élevé. Et il va être de plus en plus élevé. C'est-à-dire qu'on doit s'adapter à ça. Mais je disais qu'il y avait un deuxième grand défi qui nous est lancé. Tout le monde en a entendu parler. C'est la question du changement climatique. Et l'énergie joue un rôle majeur. 90% des gaz à effet de serre sont liés à l'énergie. Or, le changement climatique va imposer que d'ici 2015, on ait inversé la courbe de concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est-à-dire qu'il faut que d'ici 2015, on ait fait des efforts suffisants à l'échelle de la planète pour que le taux de concentration du gaz carbonique, notamment dans l'atmosphère, commence à diminuer. Quel est le risque? On produit du gaz carbonique notamment, beaucoup, et il faut bien que quelque part sur la Terre, il y ait un élément capable d'absorber ce gaz carbonique. C'est l'océan, et un petit peu la forêt sur Terre. Seulement l'océan, il accepte d'absorber du gaz carbonique tant que la température sur Terre n'augmente pas de plus de 2 degrés. Si la température sur Terre atteint 2 degrés d'augmentation par rapport à aujourd'hui, l'océan n'absorbera plus et le climat risque de s'emballer. C'est-à-dire que, quoi qu'on fasse demain, on peut arrêter immédiatement toute émission de gaz à effet de serre, le climat, la température notamment, augmentera de façon incontrôlable. Et on ira vers une explosion qui conduira à 5, 6, 7 degrés de plus sur cette Terre. Et il faut savoir que 5 degrés d'écart, ce n'est pas un simple ajustement vestimentaire, c'est-à-dire qu'on ne va pas se payer un maillot de bain pour tenir plus longtemps, etc. À titre d'exemple, 5 degrés de moins, c'était il y a 20 000 ans, l'océan était 120 mètres plus bas, donc on allait à pied sec en Angleterre, qui n'était pas une île. Puisqu'il y avait plus d'eau dans la mer, eh bien, il y avait des glaciers de 3 km d'épaisseur sur toute l'Amérique du Nord, l'Europe du Nord. Même à Genève, le glacier mesurait 1200 mètres d'épaisseur et à Briançon, 2 km d'épaisseur. Ça veut dire que 5 degrés d'écart, ce n'est pas un simple ajustement vestimentaire, c'est un changement d'air climatique. Et ça, on doit tous le comprendre. Et on doit donc agir de manière extrêmement forte dès aujourd'hui. Et quand on dit forte, tous les calculs qu'on fait montrent qu'il faut diviser par un facteur au moins 7 toutes nos consommations d'énergie actuelles, que ce soit le transport, que ce soit les bâtiments, que ce soit toutes les activités qui utilisent de l'énergie. C'est un effort qui est considérable, mais c'est tout simplement la survie de la planète qui est en jeu à relativement court terme, moins d'un siècle.
Vous nous dites que même si on arrêtait les émissions de gaz à effet de serre, cette variation de degrés se ferait quand même. Donc,
non, finalement... ce que je dis, c'est que si vous n'allez pas suffisamment vite pour agir, il sera trop tard après. Et après, si vous arrêtez tout, ça ne servira plus à rien. Ça veut dire que l'effort qu'on doit faire, ce n'est pas dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, c'est tout de suite, c'est immédiatement, et c'est de manière très intense. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, si on parle de la rénovation des bâtiments, on ne peut pas rénover un peu. On est obligé de rénover très fortement les bâtiments. C'est ça que je dis. Aller vite et aller très fort.
Alors concrètement, comment procède-t-on? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles personnes doivent être... Est-ce que c'est le politique aussi qui doit se saisir de ça?
Ce que tout le monde doit faire, ce que chaque propriétaire doit faire, c'est effectivement rénover son bâtiment pour l'amener à des niveaux de consommation qui sont de l'ordre de 5 à 7 fois moins élevés que ce qu'il consomme actuellement quand son bâtiment n'est pas isolé. Si on veut donner des valeurs numériques mais qui parleront pas beaucoup à chacun, c'est des consommations de l'ordre de 30 kWh par mètre carré et par an pour se chauffer, par exemple.
Et
bah, la moyenne française, sur tout le parc confondu, c'est 210.
210.
Voilà, ça donne des ordres de grandeur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faut impérativement donc associer de l'isolation à toutes les parois, que ce soit les murs, que ce soit les toitures, que ce soit les planchers bas sur des caves ou sur des garages. Il faut, avec des épaisseurs d'isolant pour donner des ordres de grandeur qui sont de l'ordre de 15 à 20 cm sur des murs, de 30 à 40 dans la toiture par exemple. Il faut changer toutes ces menuiseries, ces fenêtres si vous préférez, pour les remplacer à minima par des doubles vitrages peu émissifs avec de l'argon entre les vitrages, mais souvent ça sera du triple vitrage. Il faut utiliser des ventilations double flux, donc qui sont mécaniques, avec un récupérateur de chaleur entre R9 et R extrait. Voilà toutes les dispositions qu'il faut mettre en œuvre, donc qui sont draconiennes. Je sais très bien que si on ne rend pas obligatoire ces rénovations, elles ne se feront pas. Et c'est là que je demande aux politiques d'intervenir avec courage. C'est certainement pas très populaire de décider ça, mais c'est la seule façon de s'en sortir.
Est-ce que vos études vont plus loin que...
Ben, pour imposer quelque chose à quelqu'un, il faut en avoir le pouvoir. Comme on n'est pas en dictature, effectivement, personne, pas plus les élus qui ont mis en place BioVallée que nous, à Enertech, on peut imposer. Aujourd'hui, on n'est pas dans un schéma comme celui-là. Ce que je demande au pouvoir public depuis plusieurs années, c'est de rendre obligatoire, mais je parle bien des pouvoirs publics au plus haut niveau, donc l'État, de rendre obligatoire la rénovation d'un certain nombre de bâtiments chaque année, notamment toutes les ventes de logements anciens, c'est-à-dire d'avant 1975, puisqu'ils n'étaient pas isolés avant 1975, toutes les ventes, c'est-à-dire il y en a 470 000 par an, devraient être soumises à une obligation de rénovation. Mais ça ne suffira pas, il faut en rénover 1 million par an pendant 10 ans. Donc il faudra trouver d'autres critères pour rendre obligatoires des bâtiments qui seront d'ailleurs en site occupé, ce qui sera un petit peu plus compliqué encore. Mais ça, c'est l'État et lui seul qui peut le faire, de la même façon qu'il vote des lois régulièrement, des lois qui sont des contraintes, mais il faudra qu'il vote cette contrainte-là. Ça ne sera pas populaire. Ça veut dire qu'il faut accompagner cette obligation d'un très gros travail de sensibilisation et d'information des gens. Si je n'explique pas aux gens pourquoi je prends cette mesure très impopulaire, ben ils ne le feront pas. En revanche, si je leur explique que dans le fond, la survie de l'humanité qui est menacée, si je leur explique que demain, il y a une pénurie énergétique et on ne va pas s'en sortir si on ne prévoit pas tout de suite des dispositions, si je ne leur explique pas tout ça, ils ne le feront pas. Si je leur explique, ils vont comprendre et ils vont finir par accepter. De la même façon qu'on a limité la vitesse sur la route pour qu'il y ait moins de tués, qu'on a rendu obligatoire la ceinture de sécurité. Bon, les Français ont mis des dizaines d'années à l'accepter. Aujourd'hui, ils l'acceptent et plus personne ne le remettra en cause. Mais là, il va falloir faire la même chose. Et les seuls qui pourront imposer ne sont pas les élus et les collectivités locales, c'est l'État. C'est l'État qui en a le pouvoir. Aujourd'hui, l'État ne veut pas le faire. En disant, on est un gouvernement, on est un pays libre, on est un pays... Bon, tout ça est vrai. Simplement, il faut savoir que les pays qui ont le plus incité, comme l'Allemagne, qui donnent jusqu'à 30% du coût des travaux sous forme de subvention, n'arrivent à rénover qu'1% de leur parc chaque année, alors qu'il faudrait en rénover 5%. Ça veut dire qu'il faut avoir conscience que dans nos pays, avec notre culture, l'incitation ne sera jamais l'outil qui permettra d'aller suffisamment vite pour atteindre le résultat qu'on doit absolument atteindre. Tant que ça ne sera pas obligatoire, ça ne se fera toujours que de manière épisodique, sous forme d'incitation. Et là, effectivement, les élus locaux peuvent jouer ce rôle-là, soit par du conseil technique, soit par des subventions, de l'aide, comme le fait par exemple la région Bourgogne de manière massive. Mais ça s'arrête là. Et donc il faut que le secteur bancaire se remette en marche, arrête son jeu un peu glauque actuel et revienne dans la partie du financement des travaux dans le bâtiment, trouve des prêts à relativement bas coût. Là, ce que je vous ai dit, c'est un prêt à 4,5%, mais j'avais pris des contacts avec les banques il y a quelques années. Elles me parlaient de prêts à 3%. L'une d'entre elles m'avait même dit « ça sera un prêt à taux zéro si l'emprunteur fait son achat, son prêt principal pour acheter sa maison chez nous ». Donc les banques étaient prêtes à le faire. Bon, là-dessus est passée la crise, mais il faut qu'elles reviennent dans le jeu. Si elles ne sont pas là, il ne se passera rien. Donc elle joue un rôle majeur à jouer et la clé de la réussite de cette affaire, elle est économique et uniquement économique.
Biotop, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Retour en plateau après ce constat de Olivier Sidler. Alors, Monsieur Pérez, avez-vous une réaction déjà à ça? Faites-vous le même constat? Est-ce que les agences, les associations locales pensent la même chose?
Il y a une prise de conscience aujourd'hui quand même de la part des propriétaires pour améliorer la performance thermique de leur logement. Bon, on est toujours dans l'incitation, Olivier Sidler a raison. Tant qu'il n'y aura pas une réglementation thermique dans l'existant qui imposera d'atteindre un objectif de performance globale élevée, on avancera qu'à petits pas. Et donc il y a urgence sur le plan du changement climatique. L'unanimité au niveau national le montre, avec le rapport du GIEC récent. Il faut aller plus loin aujourd'hui que la simple demande de conseils. Il faut effectivement faire un effort d'accompagnement des maîtres d'ouvrage pour leur montrer effectivement l'objectif à atteindre et que on peut obtenir au bout du compte un équilibre entre l'économie d'énergie que l'on réalise et puis l'investissement que l'on met en place pour faire ces travaux. Toute la difficulté est là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement question d'un accompagnement technique du maître d'ouvrage. Il est aussi question de l'accompagner sur du point de vue de l'ingénierie financière. Donc lui faire obtenir les subventions auxquelles il a droit, lui faire bénéficier du crédit d'impôt de l'État. Mais c'est pas suffisant, évidemment. Il faut aussi mettre dans la balance l'économie d'énergie qu'il va réaliser, compte tenu, par ailleurs, de l'augmentation du prix des énergies qui est attendue. Il est évident que dans les 10 à 20 ans qui viennent, le prix de l'électricité et le prix des énergies fossiles va exploser. Il faut aussi tenir compte de cette perspective d'augmentation du prix des énergies pour convaincre. Il s'agit aujourd'hui de convaincre les propriétaires de logements ou même les collectivités. Même les collectivités ont des décisions à prendre en matière de réduction des consommations énergétiques. Donc il faut aller vraiment dans l'accompagnement de tous les porteurs de projets.
Enfin là vous parlez de convaincre, mais est-ce que vous pensez que c'est pas plutôt par la contrainte que ceci va passer, comme le pense Olivier Sidler?
Oui, mais quand bien même il y aurait une réglementation plus drastique, plus exigeante, reste posée la question de l'investissement. C'est là qu'il s'agit de convaincre que l'investissement est nécessaire, mais aussi rentable. Toute la question de la rentabilité est à prendre en compte. Il y a un calcul qui doit se faire entre l'économie d'énergie attendue, avec en incluant la perspective d'augmentation du prix des énergies, et puis les aides qui sont susceptibles d'être mobilisées.
Quels moyens l'ADIL propose alors pour ce faire ?
Le point information énergie déjà peut donner des premiers conseils allant dans le sens des préconisations d'Olivier Sidler. Il faut être clair, il ne s'agit pas aujourd'hui de faire du ponctuel, isoler des murs avec 10 cm d'isolant, c'est clairement pas suffisant. Il faut aller sur les épaisseurs préconisées, s'équiper de systèmes de ventilation performants pour réduire au maximum les besoins de chauffage du logement. La question de l'équipement de chauffage devenant secondaire du fait d'avoir réduit au maximum les besoins, on est dans une démarche qu'on appelle la démarche négawatt, celle qui consiste à réduire au maximum les besoins à la source pour ne plus poser la question du choix de chauffage finalement. Aujourd'hui, encore beaucoup de gens se posent la question, par quoi pourrais-je remplacer ma chaudière fuel ou ma chaudière gaz compte tenu du prix actuel des énergies fossiles. Est-ce que la solution est de remplacer une chaudière fuel par une chaudière au bois, ou est-ce que la solution est de mettre un capteur solaire pour produire son eau chaude ? C'est évident que non. C'est d'abord par la réduction des besoins que ça passe. Et donc, c'est pour ça que l'isolation est la priorité. Mais en allant même très loin dans les épaisseurs d'isolants à mettre en œuvre.
Tout le monde fait encore son calcul sur un simple rapport financier, quoi.
Et oui, évidemment. Évidemment, et c'est là que le bât blesse, c'est que depuis 2 ou 3 ans, pour vous donner un exemple concret, beaucoup de particuliers ont fait le choix, par exemple, de mettre des capteurs photovoltaïques du fait d'un crédit d'impôt incitatif et d'un tarif d'achat de l'électricité. Et c'est bien dommage parce qu'ils se privent d'un dispositif fiscal intéressant pour d'abord réduire leurs besoins en énergie. Penser à produire de l'énergie c'est de façon décentralisée avec des capteurs photovoltaïques, c'est une bonne chose. Mais une fois qu'on a résolu la question des consommations de chauffage et d'eau chaude et puis d'électricité spécifique, n'en parlons pas, là aussi il y a un potentiel d'économie très important sur l'éclairage, l'électroménager, etc., la suppression des veilles inutiles. Donc tout ça, il y a un travail de conseil sur les cibles à mettre en œuvre avant même de faire les investissements.
C'est ce qu'on appelle donc les bâtiments basse consommation. D'abord, voilà, on réduit leur empreinte et puis...
Tout à fait. L'objectif, il est là, effectivement. Dans le neuf, aujourd'hui, tous ceux qui ont des projets de construction de maisons individuelles, la demande s'oriente fortement vers ce que sera la réglementation thermique dans 2 ans pour le résidentiel à partir du 1er janvier 2013. C'est ce que l'on appelle les normes BBC, bâtiments basse consommation. Dans le neuf, on sait faire. Dans l'ancien, effectivement, c'est plus compliqué. Mais c'est notamment par les préconisations d'Olivier Sidler qu'on peut atteindre aussi un niveau BBC dans l'existant. Alors moins élevé que dans le neuf, évidemment, hein, puisqu'on difficile de traiter toutes les surfaces de façon optimale, notamment la question des ponts thermiques, de l'étanchéité à l'air. On peut améliorer, on peut diviser facilement par 5 ou par 7 les consommations d'énergie dans le logement ancien si on y met les moyens. Et toute la question des moyens mis par l'État est déterminante. Il faut être à la fois dans la réglementation stricte et aussi dans l'aide à l'investissement. Alors ça passe par des subventions, mais il faut aussi mobiliser bien sûr les organismes bancaires pour inciter les particuliers.
On va prendre une petite pause musicale, ça se fait, pour respirer après un petit temps. Louis, tu avais choisi un morceau, est-ce que tu peux nous rappeler ? C'était Never Turn Your Back on Mother Earth, donc c'est Ne Tourne Pas le Dos à Mère Nature.
C'est un groupe qui s'appelle Sparks et c'est de l'album Propaganda en 1974, 2 ans après l'appel du Club de Rome. Et c'est donc un des premiers rock à sensibilité écologique.
Retour dans cette émission Biotope, co-réalisée par Radio Diwa et Radio Saint-Ferréol. Le thème, c'est les économies d'énergie, et toujours en présence de Yann Pérez de la DIL et puis de Louis. Nous sommes allés chercher quelques questions citoyennes. Donc voilà, nous proposons des questions assez concrètes et puis d'y répondre par la suite. Alors, première question.
Eh bien, moi, j'entends beaucoup parler d'économie d'énergie. Mais je voudrais savoir comment ça se mesure.
Question très simple. On a entendu des chiffres cités tout à l'heure par Olivier Sidler.
Alors, déjà, ça se mesure sur sa facture, hein, sur son compteur d'énergie. Enfin, tous les travaux d'économie d'énergie que l'on peut mettre en œuvre, ça se traduit par des économies en kilowattheure et des économies en euros. Ça, c'est la première des choses. Alors, j'imagine que la question, c'est plutôt de savoir comment ça se mesure avant de savoir ce qu'il faut mettre en place comme travaux. On peut éventuellement passer par un diagnostic thermique du logement, mais Olivier Sidler est plutôt partisan de solutions de référence à mettre en œuvre pour arriver à l'objectif de réduction par 5 ou par 7 des consommations. Voilà. Effectivement, le diagnostic thermique d'un logement, c'est un calcul théorique qui peut être complété par une analyse thermographique du bâtiment pour permettre de visualiser les déperditions. Mais j'aurais tendance à dire que si on considère un bâtiment d'avant 75 qui n'a pas fait l'objet de travaux de rénovation thermique, on est sûr que c'est une passoire et qu'il va falloir y travailler lourdement dessus. Voilà. Donc la question du diagnostic préalable permet éventuellement de confirmer les consommations réelles en énergie, mais il existe des solutions de référence qui sont à mettre en œuvre pour atteindre l'objectif de réduction.
C'est-à-dire qu'on fait une sorte de cahier des charges inverse, en fait, cahier des charges de la mauvaise habitation mal isolée, quoi.
Le risque au bout, c'est de ne faire que du palliatif, c'est-à-dire colmater les brèches les plus importantes en quelque sorte, alors qu'on sait pertinemment que si la toiture bénéficie d'une isolation un peu ancienne, que les murs ne sont pas isolés, en isolant déjà ces deux cibles de déperdition, on fait 40 ou 50% d'économie sur sa facture de chauffage, parce que c'est par là que les pertes de chaleur sont les plus importantes. Mais au-delà de ça, il y a la question de la mise en œuvre aussi, hein, des isolants. Hein. C'est bien, bien beau de parler d'épaisseur d'isolant. Il faut qu'il y ait une offre d'artisans, une offre de professionnels adaptée aux enjeux d'une rénovation thermique performante. Et ça, c'est encore aujourd'hui peu développé. Hein. Il faut qu'aujourd'hui, les entreprises du bâtiment travaillent de concert pour arriver à un produit fini de bonne qualité thermique. Il y a de gros enjeux là-dessus, notamment par rapport à la question de l'étanchéité à l'air. Et les artisans vont être appelés à travailler de plus en plus ensemble pour éviter de
gâcher le travail
de l'autre. Voilà. Il y a de la formation à mettre en œuvre auprès des professionnels. Et donc, un des enjeux de BioVallée, c'est aussi de créer une offre, déjà de susciter une demande, hein, de la part des particuliers. Mais en face de cette demande à faire prendre, il faut aussi une offre de service par des professionnels compétents qui savent ce que sont les enjeux d'une rénovation BBC, en l'occurrence bâtiment basse consommation. Donc il y a toute une analyse globale à mettre en place qui comprend bien sûr l'isolation, le choix le plus pertinent de matériaux compte tenu du type de paroi, mais aussi la question de la ventilation qui va de pair avec une bonne isolation, la question de l'étanchéité à l'air. Et bien sûr, au final, le choix le plus approprié de chauffage, avec la puissance la plus adaptée à l'amélioration thermique qui a été mise en œuvre, pour avoir le meilleur rendement de l'équipement.
Très bien. Une seconde question.
J'habite un logement mal isolé, notamment les fenêtres, ce qui implique des frais de chauffage conséquents l'hiver. De quels moyens dispose un locataire pour réaliser des économies d'énergie ? Ou pour faire en sorte que le propriétaire fasse des travaux qui permettent une meilleure économie d'énergie?
Alors, c'est une question très concrète. La première des démarches, c'est bien sûr d'en faire part à son propriétaire, hein, puisque le locataire n'a pas vocation à faire l'investissement de travaux d'économie d'énergie. Ça incombe plutôt au propriétaire bailleur. Il faut donc alerter, en cas d'inconfort thermique, le propriétaire bailleur sur la nécessité de travaux. Le point information énergie renseigne aussi les propriétaires bailleurs qui veulent rénover leur logement locatif. Il faut arrêter de dissocier aujourd'hui la question du loyer de la question des factures énergétiques. C'est un tout. Hein. Le logement, finalement, on ne paye pas simplement la location, mais on paye une facture d'énergie qui va dépendre de sa performance thermique.
Non, mais concrètement, alors, il n'y a pas de dispositif légal forçant un propriétaire à faire des travaux relativement plus ou moins dispensables. Il n'y a rien.
Si, il y a bien quand même un cadre réglementaire qui est la loi sur le logement décent, mais rien n'oblige aujourd'hui un propriétaire bailleur à rénover thermiquement son logement. La loi sur le logement décent, elle est là pour garantir un confort d'occupation. Et si l'aspect thermique du logement est une des questions importantes de cet inconfort, il faut faire part à son propriétaire.
Je voulais simplement compléter ça en disant, bon, c'est peut-être il y a cette notion d'inconfort, mais il y a bien aussi cette notion de facture. Et facture qui incombe en général uniquement au locataire.
Absolument.
Voilà. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'effectivement...
Alors, il existe un dispositif qui a été mis en place il y a 2 ans au niveau national, qui est le partage des charges, de travaux, d'économie d'énergie. Concrètement, le propriétaire bailleur peut répercuter sur le loyer de son locataire les travaux d'économie d'énergie qu'il aurait pu... les investissements liés aux économies d'énergie qu'il aura pu mettre en œuvre dans une certaine limite. Hein, parce qu'il y a quand même...
D'accord, il y a une limite de temps quand même.
Il y a surtout une limite de plafond de répercussion des investissements mis en œuvre par le bailleur sur le loyer.
Alors ça rejoint un petit peu l'intervention de la première personne dans le micro-trottoir. Alors il faut avoir de l'argent pour...
Il faut, disons qu'un propriétaire bailleur, au même titre qu'un propriétaire occupant, doit aujourd'hui s'interroger sur... ce que génère son logement en termes de gaz à effet de serre. Et donc là, après, effectivement, hors contexte de réglementation drastique, ni les propriétaires occupants, ni les propriétaires bailleurs ne seront convaincus et contraints même de faire réaliser des travaux d'économie d'énergie. Il y a des mécanismes incitatifs qui existent, mais on n'est encore pas dans le tout réglementaire. C'est bien dommage.
On retombe bien sur nos pattes. Une troisième question.
Bonjour. Alors ma question est la suivante. Faites-vous la promotion des sous-produits agricoles dans la construction, en rénovation ou en construction neuve? Et si il vous est demandé de les utiliser, comment gérez-vous la demande et vers quel professionnel vous redirigez ces demandes? J'entends par là, bien sûr, la paille et d'autres sous-produits agricoles, comme le chêne vote aussi, voire même la terre. Merci.
Voilà.
Alors c'est une question de plus en plus importante, si on considère les demandes de particuliers auprès du point information énergie, la question des écomatériaux effectivement. Alors ce que l'on entend par écomatériaux, c'est une vraie question, il n'y a pas de définition officielle aujourd'hui de ce qu'est un écomatériau. On peut au moins admettre cette définition qu'un écomatériau, c'est un matériau d'origine biosourcée, d'origine végétale ou animale. Se pose quand même la question de la proximité de fabrication et la...
Ce qu'on appelle l'empreinte grise, c'est ça ?
Voilà, l'énergie grise.
L'énergie grise, pardon. Ouais.
Alors c'est une question qui va être de plus en plus prise en compte d'ailleurs, cette question d'énergie grise dans les projets de construction ou de rénovation des bâtiments. C'est une notion un peu nouvelle qu'il faut bien sûr intégrer, puisque faire des travaux d'économie d'énergie, ça génère donc l'utilisation de matériaux, et que ces matériaux ont nécessité de l'énergie lors de leur fabrication. Et les matériaux effectivement les plus locaux que l'on peut utiliser pour améliorer la performance thermique de son logement ou même en construction dite écologique, la paille par exemple, la paille de lavande aussi qui est un isolant assez nouveau et plutôt performant qui permet de développer une offre locale de matériaux. Un vrai écomatériau finalement, c'est un matériau issu d'une filière renouvelable végétal ou animal, mais qui en plus est fabriqué à partir de ressources locales.
Et puis qui intègre une notion de recyclage de ce matériau, justement.
Évidemment, évidemment.
Et donc deuxième partie de la question, faites-vous la promotion de cela et assurez, existe-t-il des professionnels vers qui orienter ?
Bien sûr, on s'adapte non seulement à la demande, mais c'est une question de santé publique. Le choix d'isolants conventionnels type laine minérale, polystyrène, on a aujourd'hui des produits alternatifs qui sont aussi performants sur le plan thermique, qui sans doute nuisent moins à l'enveloppe du bâtiment, à sa respirabilité. Donc on est effectivement très partisans de l'éco-rénovation ou de l'éco-construction. Je dirais que c'est un petit peu le choix des matériaux écologiques, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Donc, si on s'oriente vers un projet de rénovation thermique globale, en plus de la question du choix des matériaux, c'est bien sûr l'idéal. Après, c'est qui dit éco-matériaux dit pour l'instant aussi surinvestissement par rapport à une solution dite conventionnelle.
Bien, justement, on a là un petit exemple, un petit témoignage. Louis s'est rendu à l'Arche des Trois Becs, que vous connaissez. D'ailleurs, vous êtes cité dans le reportage, ce qui vous permettra sans doute de réagir. L'Arche des Trois Becs, donc, c'est un gîte qui a œuvré dans la rénovation globale de ses infrastructures, et puis pour en faire des bâtiments basse consommation, et puis également aussi dans la production autonome d'énergie.
Tout d'abord, quand on est arrivé ici, il y avait des coûts de fonctionnement énormes. On avait une chaudière à fioul avec des déperditions. Il y avait beaucoup de tuyauteries non isolées, donc beaucoup de déperditions, beaucoup de gaspillage d'énergie. Première chose, après, au niveau de l'électricité, nous avons une grosse consommation électrique puisque nous avons des chalets, un gîte, des chambres d'hôtes, une grosse structure, donc une grosse consommation électrique. Mon premier objectif était de moderniser tout ça pour avoir des coûts de fonctionnement moindres et puis pour pouvoir s'en sortir plus facilement. Quoi.
Quels sont les travaux que vous avez réalisés alors ?
Alors nous avons tout d'abord supprimé la chaudière fioul par une chaudière à granulés avec des panneaux solaires thermiques. Préchauffage de l'eau chaude sanitaire et chauffe aussi la piscine. L'été, on est 100% solaire au niveau de la piscine et de l'eau chaude sanitaire. Et puis l'hiver, la chaudière à granulés fait le complément. Et puis après, on a installé une éolienne justement pour compenser la production d'électricité. Une éolienne de 10 kW qui fait 12 mètres de haut et qui a une production annuelle estimée aux alentours de 15 000 kWh.
Tous ces travaux vous ont permis de réaliser combien d'économies d'énergie ?
Alors pour l'instant, c'est un petit peu tôt pour le dire parce que bon, ça fait qu'un an et demi qu'on est là. On pense économiser environ entre 7 et 9 000 euros d'énergie par an.
Pour un montant d'investissement qui représente combien ?
Pas loin de 100 000 euros, quoi. En comptant tout ce qui est donc plomberie pour la chaufferie, la pose de l'éolienne et puis tout ce qui est aussi maçonnerie, le socle en béton, la chaufferie, aux environs de 100 000 euros.
Donc en fait, si on fait un peu le calcul, ça pourrait être amortissable en 12-13 ans, quoi.
À peu près une douzaine d'années, si tout se passe bien.
Alors 100 000 euros à trouver, c'est quand même pas rien, même pour des gens qui ont un petit pécule. Est-ce que vous avez fait des démarches administratives auprès de structures ad hoc pour vous aider à financer tout cela ?
Oui, tout à fait. Notre première démarche a été déjà d'en parler au maire du village et puis du conseiller Monsieur Pégon, qui nous a aiguillés sur la deal pour obtenir une subvention en fait. Ça n'a pas été facile quand même parce qu'au début, on nous a un petit peu tout refusé, tout ce qu'on a, normalement on devait avoir droit. Donc, par l'insistance de ces gens-là, de la DIL, on a quand même réussi à bénéficier d'une subvention de l'ADEME pour le bois et de la région pour le solaire, le bois et le BBC aussi. Parce qu'il faut savoir qu'on rénove aussi la maison en bâtiment basse consommation.
Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été soutenu par tous les organismes qui seraient censés aider les gens à s'équiper pour économiser l'énergie ? Est-ce que tu as l'impression d'être suivi, d'être aidé par ces organismes comme la DIL, l'ADEME ?
Le premier avis, ça serait non. Et après, avec un peu de recul, je pourrais dire quand même que oui. C'est vrai que la première personne qu'on était allé voir, c'est Monsieur Pégon qui nous a quand même aiguillé sur les personnes à rencontrer et à aller voir. La DIL, dans un premier temps, était un petit peu réticent à notre projet et puis au bout d'une heure de conversation, était plus ou moins emballée, enfin même plus que moi d'ailleurs, par rapport à la globalité du projet. En sachant que pour avoir des subventions, de toute façon, c'est très compliqué parce qu'il faut rentrer dans des cases et qu'on ne rentrait pas forcément dans les cases et que le projet global n'est pas vu. En sachant qu'il y a des budgets qui sont octroyés en fonction de certaines choses. Actuellement, c'est plutôt la chaudière à copeaux de bois qui est financée plus que la chaudière à granulés. Mais malgré tout, je pense que la globalité du projet a attiré un peu leur attention. Le fait aussi qu'Alexandre Lapoujade et nous ait monté le dossier nous a beaucoup aidés. Je pense que c'est très important de passer par quelqu'un, parce que c'est vrai que nous, on était vraiment confiants dans le fait de faire les choses bien. Mais voilà, dans les bureaux, c'est un petit peu différent. On regarde des chiffres, on regarde ce qui est octroyé. Il suffit de modifier un terme, vous pouvez avoir une subvention, alors que vous ne dites pas forcément le bon terme ou vous n'employez pas les bonnes choses. C'est vrai que beaucoup d'études demandent d'être faites avant de se lancer dans un projet. Nous, on a fait un petit peu le contraire. C'est vrai que nous, on avait
fait les travaux et vous avez fait les études après.
Voilà, pas vraiment les travaux, mais on était vraiment en même temps. Effectivement, je pense qu'il est préférable de rencontrer la DIL, de monter le projet avec eux pour avoir le plus de subventions possible.
Si c'était à recommencer, vous le recommenceriez, tous ces travaux pour...
Ah oui, sans aucun doute, parce que même de toute façon, si on n'est pas aidé, on est persuadé que...
On l'aurait fait quand même.
Ça amènera de toute façon une plus-value à la maison, que c'est dans l'air du temps maintenant, mais de plus en plus, ça va être nécessaire. Donc non, aucun regret.
Biotope. Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol.
Soutenue par BioValley.
Un petit témoignage très concret, justement, avec quelques problématiques qu'ils ont pu rencontrer. Donc, il s'agit de particuliers.
Alors, il s'agit effectivement d'un très beau projet qui a bien abouti, qui est aujourd'hui à son terme, puisque monsieur et madame Cartet, donc propriétaires de ce gîte de l'Arche des Trois Becs, ont fait le choix de supprimer le fioul. Mais en premier lieu, le choix était d'avoir le meilleur confort thermique et la meilleure isolation possible. Pour revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, le choix s'est d'abord porté sur l'amélioration thermique de l'enveloppe. Et là, ils ont fait le choix effectivement d'opter pour des matériaux alternatifs, type ouate de cellulose, etc. Ils se sont portés candidats du coup à l'appel à projet sans rénovation basse énergie de la région Rhône-Alpes, qui visait à inciter les porteurs de projets à rénover de façon globale et performante leur habitation. Donc, monsieur et madame Cartet, donc, étant propriétaires à la fois du gîte et de leur habitation, ont rénové l'ensemble avec donc un haut niveau de performance, un haut niveau d'isolation, et s'est posé ensuite la question du choix d'énergie alternatif au fioul. Et effectivement, logiquement, on aurait préféré, une chaudière à copeaux dans la mesure où on valorise du bois local plutôt que du granulé.
Oui, vous pouvez expliquer ça un petit peu.
Effectivement, la différence entre une chaudière granulée et une chaudière au bois déchiqueté, c'est qu'on est quand même sur deux filières de valorisation de déchets de bois. Mais le bois déchiqueté a pour impact, je dirais,
demande moins de transformation industrielle.
Voilà, puisqu'effectivement, la grosse différence, c'est que le granulé nécessite un process industriel de fabrication, process industriel qui valorise un déchet de bois, en l'occurrence. C'est une filière très structurée aujourd'hui, parfaitement saine et répondant à une demande de plus en plus forte, d'ailleurs. Mais le bois déchiqueté, c'est une ressource locale facilement valorisable, avec une filière aujourd'hui bien établie en Drôme-et-Ardèche, notamment une association qui s'appelle Fibois, qui gère l'interprofession du bois énergie. Alors après, il y a bien sûr des contraintes liées au stockage du bois, puisque l'avantage de ces solutions de chauffage, c'est qu'elles sont automatiques l'une et l'autre, mais le bois déchiqueté nécessite un stockage plus important, ce qui a finalement plutôt orienté monsieur et madame Cartet vers le choix du granulé, qui s'avère une solution alternative au fioul très intéressante du point de vue de l'économie qu'on réalise par rapport au prix même de l'énergie, mais aussi au fait que le fait de brûler du bois ne contribue pas au réchauffement climatique par l'augmentation de CO2.
Oui, mais si on en revient à leur sensation un petit peu de ne pas avoir été véritablement soutenu, qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense que les
méandres administratifs aussi.
C'est plutôt ça que je mettrai en avant. C'est plutôt effectivement la difficulté qu'ont eu monsieur et madame Cartet d'obtenir le soutien financier qu'ils pouvaient attendre de leur projet. Alors je ne mets pas de côté effectivement les réticences au départ que pouvait avoir le Pôle Information Énergie, mais l'idée était de les orienter au mieux vers les choix les plus pertinents, de manière à bénéficier au maximum des dispositifs venant en faveur des économies d'énergie et des énergies renouvelables. Donc au final, encore une fois, on a un projet exemplaire sur le territoire BioValley. Puisqu'il balaye tous les champs de ce qu'est une éco-rénovation performante, usage des énergies renouvelables, donc autonomie parfaite au niveau des énergies, isolation renforcée avec des écomatériaux. Donc on est sur un projet typiquement exemplaire.
Je vous propose une nouvelle pause musicale avec le Taraf des Haïdouk et on va écouter le titre instrumental USTM. Pour terminer l'émission, puisqu'on approche de la fin de l'heure, nous ne passerons pas l'intervention d'Alain Arnaud, l'entreprise Arter, qui nous spécifiait particulièrement l'isolant thermique qu'est la ouate de cellulose. On le partagera sur notre site internet en intégralité à part. Et je voudrais terminer justement avec un autre exemple, une autre valeur d'exemplarité, c'est ce qui se passe à la mairie de Suze, dans la vallée de Beaufort.
Dans le cadre de cette émission Biotope, la Biovallée en pratique, une initiative assez intéressante menée à la mairie de Suze. Alors, monsieur le maire, bonjour.
Bonjour.
Nous avons eu vent qu'ici, on pratiquait un certain nombre de choses pour économiser de l'énergie, comme c'est le thème de l'émission. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que vous avez mis en place à Suze ?
Donc, essentiellement, à Suze, ce qu'on a mis en place pour l'économie d'énergie, c'est l'extinction des feux à partir de 0h jusqu'à 6h du matin, tous les soirs, y compris les week-ends.
Et toute l'année ?
Et toute l'année.
D'accord, dans l'extinction des feux, on entend plus d'éclairage public.
Plus d'éclairage public dans le village. Dans D'accord. les deux hameaux, le hameau des Jaux et le village de Suze.
Alors ça part d'une étude en se disant qu'il y a une vraie économie à faire là-dessus ou c'est une volonté politique ?
Disons que l'ancienne municipalité, donc en 2006-2007, avait essayé de faire une enquête, savoir si, comment la population réagirait à ce type de pratique pour faire des économies d'énergie. On n'avait pas eu de réponse et puis bon, c'était un petit peu tombé en désuétude. Suite à ça, en 2008, donc, il y a eu 60% de renouvellement au conseil municipal. La question est revenue sur le tapis sous l'impulsion de la nouvelle municipalité. En fait, on a décidé de mettre en pratique. On a mis ça au vote au printemps 2008.
Donc il y a eu un référendum pour l'ensemble de la population, c'est ça ?
Non. En 2008, on n'a pas refait le référendum puisqu'il n'avait pas eu, ça n'avait pas été conséquent au niveau des réponses. On s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne déciderait pas tout simplement de le faire et puis on verra ce que la population dira. Donc on a décidé par arrêté municipal au printemps 2008 et c'est entré en vigueur en août 2008 après l'achat de matériel qui nous permettait de faire ces opérations de coupure. C'est-à-dire qu'on avait le choix, soit on changeait tous nos appareillages électriques pour des choses qui étaient plus économiques au niveau énergie, soit on choisissait de carrément couper le courant. On a choisi la deuxième solution parce qu'elle était beaucoup moins onéreuse pour la commune. J'entends par là que, par exemple, pour changer tous les systèmes électriques de nos candélabres et de nos potences et de nos points d'éclairage. Ça représentait à peu près 7 à 8 fois la consommation annuelle électrique de la commune. Alors que le fait d'avoir simplement acheté deux horloges astronomiques, donc des horloges en fonction des fuseaux horaires, là, ce plan technique, je ne pourrais pas vous expliquer exactement comment ça marche, mais ça nous a coûté 600 euros. Ça aurait pu nous coûter 7 fois plus, quoi. Voilà, donc le choix a été vite fait pour nous. Et il s'est avéré qu'après le commencement de cette opération, donc l'extinction des feux, on n'a pas eu de retour négatif de la population. Et au contraire, les gens sont plutôt contents l'été d'avoir moins de lumière. Pour les gens qui ont des maisons en face des éclairages, des choses comme ça, ils peuvent un peu plus faire le noir dans leurs pièces et mieux dormir. Ensuite, pour la faune et...
La pollution lumineuse d'une manière générale.
D'une manière générale, c'est positif. Donc, et nous, ça se traduit concrètement par une économie d'à peu près un tiers de notre facture éclairage public.
Voilà, donc là, vous avez pu chiffrer depuis 2008 voilà. Et vous rendre compte qu'il y avait un vrai impact. Voilà.
Un vrai impact sur... en fait, ça représente... Nous, on a une facture annuelle d'éclairage sur l'éclairage public d'à peu près 1200 euros. Donc, ça représente à peu près un tiers d'économie. En 2 ans, on a déjà remboursé notre investissement.
Je reprends immédiatement l'antenne. On est pris par le temps. Donc, c'était Serge Crière, maire de Suze. On mettra évidemment l'interview en intégralité en ligne. Et puis, vous êtes à la fin cité aussi dans son interview, puisque, une fois passé ce cap d'éteindre les feux, Serge Crière partageait aussi le fait que la commune avait abandonné tout désherbage, avait mis un point fort aussi sur la gestion de ces déchets. Et prévoyez aussi l'aménagement d'une chaudière justement pour ces infrastructures. Et donc là, vous avez été sollicité.
Alors effectivement, l'autre rôle du point information énergie, qui va au-delà du conseil aux particuliers, c'est l'accompagnement des collectivités. Parce que les collectivités auront aussi leur rôle à jouer sur la réduction des gaz à effet de serre et s'interrogent comme tout un chacun sur la réduction de leur facture énergétique. Donc le rôle du point information énergie est aussi d'accompagner les porteurs de projets type collectivité ou collectif privé, hein, comme l'Arche des Trois Becs par exemple, vers la sobriété énergétique. Donc effectivement, le point information énergie accompagne actuellement la mairie de Suze sur... une alternative au chauffage propane, en l'occurrence, puisqu'on est encore sur une énergie fossile, mais non seulement une énergie fossile, mais une énergie coûteuse. Mmh.
Puis vétuste, c'est ce qu'ils nous disaient.
Installation vétuste, énergie de chauffage qui dessert la mairie, des logements communaux. Mmh. Donc on est à la fois sur des enjeux de prix de l'énergie élevé et donc d'énergie
et
génératrice,
gaspillage.
Voilà, et d'énergie génératrice de CO2. Voilà. Mm-hmm. Donc j'en profite peut-être pour rappeler très rapidement le service Biovalet chez vous, en quoi ça consiste. Hein. Donc c'est un numéro vert qui est en place depuis un certain nombre de mois maintenant, qui est le 0800 00 36 86, auquel les particuliers peuvent nous joindre pour un premier conseil, ou également prendre des rendez-vous dans des permanences que nous assurons sur le territoire, notamment à Oust-sur-Cie, Saillant, Die, Châtillon-en-Diois, Loriol, Livron, etc. Voilà, donc ce sont des permanences mensuelles sur rendez-vous. Il faut donc prendre rendez-vous au numéro vert. Voilà.
D'accord. Et un site internet où aussi des gestes peuvent être visibles directement par les internautes, par exemple.
Je ne ferai pas
comme le fait Enertech, d'ailleurs.
Je ne ferai pas forcément la publicité du site internet du PIE actuellement qui est en cours de restructuration. Mais bon, on peut déjà bénéficier effectivement de conseils en matière de maîtrise de l'énergie, mais il est en totale refonte pour l'instant. Il y a aussi le site de Biovalet que les particuliers peuvent aller consulter pour voir un petit peu l'actualité qui se passe au niveau du territoire et pour voir qu'il y a une prise de conscience des élus locaux sur ces questions de maîtrise de l'énergie. Voilà.
Monsieur Pérez, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci de votre accueil.
Louis, merci de ta présence. Voilà, je vous rappelle que vous avez rendez-vous avec Biotop les derniers jeudis de chaque mois. Le mois prochain, c'est l'équipe de Radio Saint-Ferréol qui sera aux commandes de l'émission. Retrouvez cette émission si en écoute et libre téléchargement sur les sites internet de RDIWA et de Radio Saint-Ferréol. Et merci à tous pour votre écoute et bonne soirée avec la suite de nos programmes.
Biotop. Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol. Biotope.
Un programme soutenu par BioValley.